Chapitre 19. Je me suis étendu sur ces deux épisodes pour vous montrer l'attitude de Jim dans ses nouvelles conditions d'existence. Il y eut de nombreux incidents du même genre, plus que je n'en saurais compter sur les doigts de mes deux mains. Ils étaient tous empreints de la même exaltation absurde qui rendait leur futilité profonde et touchante. C'est peut-être un geste d'héroïsme prosaïque que de jeter son pain quotidien pour se garder les mains libres en vue d'un combat contre un fantôme. D'autres l'avaient fait avant lui, bien que nous sachions, nous qui avons vécu, que ce n'est pas l'hallucination de l'âme, mais la faim du corps qui fait les réprouver. Et des hommes qui avaient mangé, et comptaient bien manger tous les jours, avaient applaudi à leur folie généreuse. Mais Jim était vraiment infortuné, car toute son impétuosité ne pouvait le soustraire à l'ombre mortelle. Il planait toujours un doute sur son courage. La vérité, sans doute, c'est qu'il est impossible d'en finir avec le fantôme d'un fait. On peut l'affronter ou fuir devant lui, et j'ai même rencontré un ou deux hommes qui savaient faire un petit signe amical à leur ombre familière. Évidemment, Jim n'était pas de ceux-là, mais je n'ai jamais pu démêler si sa ligne de conduite visait à fuir devant le fantôme ou à le regarder en face. Tout mon effort d'esprit suffisait seulement à me montrer qu'en présence de gestes aussi complexes que les nôtres, la nuance était trop subtile pour rester perceptible. On eût pu conclure à une fuite, aussi bien qu'à un mode particulier de combat. À Bangkok, par exemple, où il avait trouvé une place chez Yuker Frères, un fretteur et négociant en bois de teck, c'était chose pathétique que de le voir travailler au soleil, en gardant farouchement un secret connu des troncs d'arbres même du bord de la rivière. Schomberg, le tenancier de l'hôtel où il prenait pension, allemand hirsute à la mâle carrure, et colporteur infatigable de potins scandaleux, aimait fort, avec ses deux coudes sur la table, donner une version embellie de l'affaire à tous ceux de ses hôtes qui se souciaient d'absorber des histoires arrosées de consommation coûteuse. Et c'est le plus gentil garçon du monde, notez-le. Un homme tout à fait supérieur, concluait généreusement l'hôtelier. Il est fort à la louange des consommateurs de rencontres qui fréquentaient chez Schomberg que Jim eût pu rester 6 mois plein à Bangkok. J'ai remarqué que les gens, les étrangers même, étaient attirés vers lui, comme on est attiré vers un enfant aimable. Malgré sa réserve, on eût dit que son extérieur, ses yeux, son sourire, lui gagnaient des sympathies partout où il allait. Et ce n'était pas un imbécile non plus. J'ai entendu Sigmund Yuker, un Suisse de naissance, un être doux affligé d'une dyspepsie cruelle et si affreusement boiteux que sa tête décrivait un quart de cercle à chacun de ses pas, déclarer que pour un homme si jeune, il avait une grande gabacité, comme s'il se fût agi d'une mesure métrique. « Pourquoi ne l'envoyez-vous pas dans l'intérieur ? » m'enquérais-je avec inquiétude, sachant que les frères Yuker possédaient là concessions et forêts de teck. S'il a de la capacité, comme vous le dites, il se fera vite au travail. Et au point de vue physique, il est tout désigné. Il a toujours joui d'une excellente santé. Ah, c'est une grande chose dans ce pays de n'être pas sujet à la dyspepsie, soupirait avec un accent d'envie le pauvre Yuker, en jetant à la dérobée un regard sur le creux de son malheureux estomac. Quand je le quittais, il tambourinait sur la table et murmurait d'un air rêveur « Es ist eine Idee, es ist eine Idee ». Malheureusement, le soir même, une fâcheuse histoire survint à l'hôtel. Je ne puis vraiment blâmer beaucoup Jim, mais ce fut certainement un incident regrettable, une de ces lamentables rixes de cabaret qui mit aux prises avec Jim une espèce de Danois à yeux louches dont la carte de visite proclamait ce titre sous un nom à coucher à la porte, premier lieutenant de la marine royale du Siam. Le bonhomme était une vraie mazette au billard, mais ne devait pas aimer se faire battre. Ayant assez bu, vers la 6e partie, pour être de méchante humeur, il se mit à faire quelques remarques désobligeantes sur le compte de Jim. La plupart des assistants ne distinguèrent pas ses paroles, et quant à ceux qui les avaient entendues, les déplorables conséquences qu'elles entraînèrent aussitôt parurent avoir effacé tout souvenir de leur esprit. Le Danois dut s'estimer heureux de savoir nager, car la pièce donnait sur une véranda, au-dessous de laquelle le Menam roulait ses eaux larges et profondes. Une embarcation de Chinois, probablement engagée dans quelque expédition de maraude, repêcha l'officier du roi de Siam, et vers minuit, Jim arriva sans chapeau à bord de mon navire. Tout le monde paraissait au courant de mon histoire dans ce café, fit-il. Tout haletant encore de la lutte, apparemment. Il regrettait un peu, en gros, ce qui s'était passé. Mais dans ce cas-là, comme il le disait, il n'avait pas le choix. Ce qui causait surtout sa détresse, c'était de voir que tout le monde connaissait aussi bien la nature de son douloureux fardeau que s'il l'eût tout le temps porté sur les épaules. Naturellement, après un tel esclandre, il ne put rester dans la ville. Il fut universellement blâmé d'une violence brutale qui convenait mal à un homme dans sa situation délicate. D'aucuns l'accusaient d'avoir été abominablement ivre sur le moment. D'autres critiquaient son manque de tact. Schomberg lui-même se montra très vexé. « C'est un très gentil jeune homme, m'expliquait-il. Mais le lieutenant aussi est un garçon de premier ordre. Il dîne tous les soirs à ma table d'hôte, vous savez. Et il y a une queue de billard cassée. Je ne puis pas tolérer pareille histoire. La première chose que j'ai faite ce matin, c'est d'aller présenter mes excuses au lieutenant. Et je crois l'affaire arrangée en ce qui me concerne. Mais songez un peu, capitaine. Si tous les consommateurs se livraient à ce petit jeu-là, le lieutenant aurait très bien pu être noyé. Et ici, je ne puis pas aller chercher une queue de billard dans la rue d'à côté. Il faut que j'écrive en Europe pour la faire venir. Non, non, ce n'est pas admissible, une humeur pareille. Le sujet lui était très douloureux. Ce fut au cours de la retraite de Jim l'incident le plus déplorable. Nul plus que moi ne pouvait le regretter. Car si l'on disait bien de lui jusque-là, en entendant prononcer son nom, « Oh oui, je sais, il a pas mal roulé par ici. » Il avait su pourtant ne pas se faire trop de plaies de bosse au cours de ses pérégrinations. Mais cette dernière affaire me causa une sérieuse inquiétude. Car si son excessive sensibilité devait l'entraîner à des rixes de cabaret, il risquait de perdre sa réputation de fou agaçant mais inoffensif pour s'attirer celle d'un vagabond vulgaire. Et toute ma confiance en lui ne m'empêchait pas de sentir qu'en de tels cas, il n'y a qu'un pas du mot à la chose. Vous comprenez, je le suppose, qu'à cette époque, je ne pouvais plus songer à me laver les mains de lui. Je l'emmenai de Bangkok sur mon bateau et la traversée me parut bien longue. Il était pitoyable de le voir se rétracter sur lui-même. En qualité même de simple passager, un marin s'intéresse d'ordinaire au navire et regarde autour de lui la vie de la mer avec le plaisir critique que peut éprouver un peintre, par exemple, en face de l'œuvre d'un confrère. Il est sur le pont dans tous les sens de l'expression. Mon Jim, au contraire, se cachait la majeure partie du temps dans sa cabine, comme un pestiféré. Il finissait par déteindre sur moi et m'amenait à éviter toute allusion à des sujets professionnels qui seraient venus si naturellement pourtant à la bouche de deux marins au cours d'une traversée. Pendant des jours entiers, nous n'échangeâmes pas une parole, et j'avais une répugnance extrême à donner des ordres à mes officiers en sa présence. Souvent, lorsque nous nous trouvions tous deux seuls sur le pont ou dans ma cabine, nous ne savions que faire de nos yeux. Je le plaçai chez De Jong, comme vous le savez. J'étais bien heureux de disposer de lui d'une façon quelconque, mais je restais convaincu aussi que sa situation se faisait intolérable. Il avait perdu une partie de cette élasticité qui lui avait permis, après chacune de ses défaites, de rebondir et de retrouver son intraitable vigueur. Un jour, en débarquant, je le vis debout sur le quai. L'eau de la rade et de la pleine mer formait un seul plan, montant et uni, et les plus lointains des bateaux à l'ancre semblaient s'élever, sans bouger, dans le ciel. Jim attendait son canot, canot-pied en chargé de provisions pour quelques navires en partance. Après avoir échangé des paroles de bienvenue, nous restâmes silencieux, côte à côte. « Par Jupiter !» s'écria-t-il tout à coup. « Quelle exténuante besogne !» Il me sourit. Je dois reconnaître qu'il savait presque toujours trouver un sourire. Je savais bien qu'il ne parlait pas de son travail. Sa situation chez De Jong était bien douce. Et pourtant, à peine eut-il prononcé ces paroles, que je restais convaincu du caractère exténuant de ses occupations. Je ne le regardais même pas. « Aimeriez-vous, proposai-je, quitter définitivement cette partie du monde ?» tâter de la Californie ou de la côte orientale. Je verrai ce que je puis faire. » Il m'interrompit un peu dédaigneusement. « Quelle différence voulez-vous que cela fasse ?» Cela ne pouvait faire aucune différence, en effet. Ce n'est pas un répit qu'il demandait. Je commençais à sentir confusément que ce qu'il cherchait, ce qu'il attendait, pour ainsi dire, c'était quelque chose d'assez difficile à définir, quelque chose qui ressemblât à une ouverture nouvelle. Je lui avais procuré maintes occasions, mais ce n'était qu'autant de gagne-pain. Et pourtant, que pouvait-on faire de plus? La situation m'apparut un moment comme désespérée, et je me souvins des paroles du pauvre Brierley. Qu'il creuse donc un trou de 20 pieds pour s'y terrer. Cela eût mieux valu, me disais-je, que d'attendre l'impossible sur la terre. Mais de cela même on ne pouvait être certain. Aussi décidai-je sur-le-champ, avant que son canot ne fût à 3 brasses du rivage, d'aller ce soir-là consulter Stein sur le sujet. Ce Stein était un négociant riche et respecté. Sa maison, c'était la maison Stein et compagnie, avec une espèce d'associé qui, selon l'expression de Stein, s'occupait des Moluques, sa maison faisait un gros commerce avec l'intérieur, et possédait, dans les coins les plus reculés, une foule de comptoirs pour recueillir diverses denrées. Ce n'était pourtant ni sa fortune, ni sa situation qui me poussait à rechercher ses conseils. Je voulais lui faire part de ma perplexité, parce qu'entre tous les hommes que j'ai connus, c'était l'un des plus dignes de confiance. La douce lumière d'une bonté simple, inlassable, semblait-il, et intelligente, éclairait son long visage glabre. Ce visage, creusé de plis profonds et verticaux, était pâle comme celui de l'homme qui a toujours mené une existence sédentaire, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs. Il rabattait ses cheveux clairsemés en arrière d'un front haut et puissant. On se représentait qu'à 20 ans, cet homme-là avait déjà dû ressembler beaucoup à ce qu'il était à 60. Visage de savant, où les sourcils presque blancs et le regard résolu et scrutateur sortis de leur broussaille épaisse n'étaient pourtant point en harmonie, si je puis dire, avec une mine de lettré. Il était grand, un peu dégingandé. Une légère voussure et un doux sourire le faisaient paraître toujours prêt à vous accorder une attention bienveillante. Ses grands bras, aux longues mains pâles, avaient des gestes rares et précis, comme pour désigner ou pour démontrer. Je parle longuement de lui parce que, sous son intérieur placide et en conjonction avec une nature droite et indulgente, cet homme possédait une intrépidité d'esprit et un courage physique que l'on eût pu taxer de témérité, si ce n'eussent été là, au même titre que les fonctions naturelles du corps, une bonne digestion par exemple, attribut parfaitement inconscient chez lui. On dit de certains êtres qu'ils portent leur vie dans leurs mains. Une telle expression eût été mal adaptée à son cas. Dans la première partie de son existence en Orient, il avait joué à la balle avec sa vie. Tout cela appartenait d'ailleurs au passé, mais je connaissais l'histoire de ses débuts et l'origine de sa fortune. C'était aussi un naturaliste assez distingué, ou pour mieux dire, peut-être un collectionneur averti. L'entomologie le passionnait tout particulièrement. Sa collection de buprestidés et de longicornes, des scarabées tout cela, horribles monstres en miniature, à l'aspect malfaisant jusque dans la mort et l'immobilité, et son musée de papillons magnifiquement étalés, avec leurs ailes inanimées sous les verres de leur casier, avait répandu sa gloire fort avant dans le monde. Le nom de ce négociant, de cet aventurier, conseiller intime en un temps d'un sultan malais, à qui il ne faisait jamais allusion que sous le nom de « mon pauvre Mohamed Bonceau », était, grâce à quelques boisseaux d'insectes morts, parvenu aux oreilles de savants européens, qui n'auraient rien pu se figurer et ne se seraient certainement pas souciés de rien savoir de sa vie et de son caractère. Mais moi qui le connaissais, je le considérais comme l'homme le mieux désigné pour recevoir mes confidences sur les difficultés de Jim, et les miennes aussi. Chapitre 20. Il était tard lorsque je pénétrai dans son bureau, après avoir traversé une salle à manger imposante, mais vide et très pauvrement éclairée. La maison était silencieuse. Je marchais derrière un vieux domestique javanais renfrogné, vêtu d'une sorte de livrée faite d'une veste blanche et d'un sarong jaune, qui ouvrit la porte du bureau cria d'une voix profonde « Mon maître !» et s'effaça devant moi en s'éclipsant de mystérieuse façon, comme s'il eût été un fantôme, un instant réincarné pour ce service particulier. Stein se retourna sur sa chaise et, dans ce mouvement, ses lunettes parurent remonter d'elles-mêmes sur son front. Il m'accueillit de sa voix calme et enjouée. Un seul coin de la vaste pièce, celui où se dressait la table de travail, était fortement éclairé par une lampe à abat-jour. Le reste se noyait comme une caverne dans une ombre indistincte. Des rayons étroits, chargés de caisses foncées, toutes pareilles de lignes et de couleurs, couraient autour des murs, sans les revêtir pourtant du plancher au plafond, mais sous forme d'une bande sombre de quelques pieds de hauteur. C'étaient des catacombes de scarabées. Au-dessus, des tablettes de bois pendaient à intervalles irréguliers, et la lumière qui tombait sur l'une d'elles y faisait mystérieusement luire dans la vaste pénombre les lettres d'or du mot « coléoptère ». Les cases de verre, consacrées à la collection de papillons, étaient disposées en trois longues rangées, sur de petites tables à pieds grêles. Une de ces cases, sortie de sa place, reposait sur le bureau, où gisaient des feuilles de papier oblongues couvertes d'une écriture menue. « Voilà comment vous me trouvez. Voilà, » fit-il. Sa main me désignait la case où, dans sa grandeur solitaire, un papillon déployait des ailes de 7 pouces ou plus, des ailes sombres de bronze, avec des veines blanches d'une exquise délicatesse et une bordure somptueuse de points jaunes. « Ils n'ont qu'un spécimen comme celui-là, dans votre Londres. Et c'est tout. À ma petite ville natale, je lèguerai ce numéro de ma collection à moi. Quelque chose de moi, le meilleur. » Il se penchait sur sa chaise, et le menton appuyé sur le verre de case, il regardait ardemment. Je me tenais derrière son dos. « Merveilleux !» murmura-t-il, comme s'il eût oublié ma présence. Son histoire était curieuse. Né en Bavière, il avait, à 22 ans, pris une part active au mouvement révolutionnaire de 1848. Gravement compromis, il avait réussi à fuir en trouvant un premier refuge chez un pauvre horloger républicain de Trieste. De là, il était passé au Tripoli, avec une pacotille de montres bon marché à colporter. Ce n'était pas un début bien brillant, mais le voyage avait été heureux pour lui cependant, car il avait fait en Afrique la rencontre d'un certain Hollandais, un homme célèbre, autant que je me rappelle, mais dont j'ai oublié le nom. Ce naturaliste l'avait engagé comme une sorte d'assistant, et emmené en Orient. Pendant 4 ans ou plus, ensemble ou séparément, ils avaient exploré l'archipel indien en quête d'oiseaux et d'insectes. Puis le naturaliste repartit dans son pays, Stein, qui n'avait pas, lui, de pays à revoir, était resté près d'un vieux négociant qu'il avait connu au cours de ses voyages à l'intérieur des célèbres, si l'on peut dire que les célèbres comportent un intérieur. Ce vieil Écossais, le seul blanc autorisé à résider dans le pays à l'époque, était un ami privilégié de la femme qui présidait alors aux destinées des États oiseaux. J'ai souvent entendu Stein conter comment cet homme, légèrement paralysé d'un côté, l'avait présenté à la cour indigène, peu avant d'être emporté par une dernière attaque. C'était un homme large, à la barbe blanche, le patriarche, et à l'imposante stature. Il était entré dans la salle du conseil où Raja, Pangeran et chef étaient assemblés, sous la présidence de la reine, une grosse femme ridée, très libre de langage, me disait Stein, et allongé sur un haut divan surmonté d'un dais. L'Écossais tirait la jambe et faisait sonner sa canne. Il saisit Stein par le bras et le mena droit au divan. « Regardez, reine, et vous, Raja, » proclama-t-il d'une voix de stentor, « voici mon fils. J'ai fait du commerce avec vos pères, et après ma mort, c'est lui qui en fera avec vous et avec vos fils. » Cette simple formalité valut à Stein la situation privilégiée de l'Écossais, avec tous ses stocks de marchandises, ainsi qu'une maison fortifiée sur la seule rivière navigable du pays. Quelque temps après, la vieille reine, au langage si libre, mourait à son tour, et la région fut troublée par divers prétendants au trône. Stein se joignit au parti d'un fils cadet, celui-là même dont, 30 ans plus tard, il ne parlait jamais que sous le nom de « mon pauvre Mohamed Bonceau ». Ils furent tous deux les héros d'exploits innombrables. Ils connurent des aventures merveilleuses et soutinrent une fois, dans la maison de l'Écossais, un siège d'un mois, avec une vingtaine de partisans contre toute une armée. Je crois que les indigènes parlent encore de cette guerre-là. Cependant, Stein ne manquait jamais d'attraper, pour son propre compte, tous les scarabées et tous les papillons qu'il pouvait découvrir. Après une huitaine d'années de guerre, de négociations, de fausses trêves, d'attaques brusquées, de réconciliations et de trahisons, et au moment précis où la paix paraissait assurée de durable façon, son pauvre Mohamed Bonceau avait été assassiné à la porte même de la résidence royale en descendant de cheval, lors d'un joyeux retour de fructueuse chasse aux cerfs. Un tel événement rendait la position de Stein extrêmement précaire, mais il serait peut-être resté dans le pays s'il n'eût, très peu après, perdu la sœur de Mohamed, ma chère femme, la princesse, comme il la désignait avec solennité. Il en avait une fille, mais la mère et l'enfant avaient succombé à 3 jours de distance aux atteintes d'une fièvre pernicieuse. Il quitta donc des parages que sa perte cruelle lui rendait odieux, et termina ainsi la première et aventureuse partie de son existence. La seconde portion en différait si bien que sans la réalité du chagrin qui vivait en lui, cette étrange période lui eût fait l'effet d'un rêve. Il possédait un peu d'argent. Il se refit une vie nouvelle et, au bout d'un certain nombre d'années, avait amassé une fortune considérable. Il avait d'abord fait de nombreux voyages dans les îles, mais l'âge était venu et, depuis quelque temps, il quittait rarement sa maison spacieuse enclose à une lieue de la ville dans son vaste parc et entouré d'écuries, de communs et de cabanes de bambou pour son nombreux personnel de domestiques et d'employés. Chaque matin, il se rendait dans sa charrette légère à la ville, où il avait un bureau avec des commis blancs ou chinois. Il possédait une flottille de goélettes et de bateaux du pays pour faire, sur une large échelle, le commerce de denrées des îles. Il menait le reste de sa vie en solitaire, mais sans misanthropie, entre ses livres et ses collections, sans cesse occupé à classer et à ranger ses spécimens, correspondant avec des entomologistes d'Europe, dressant un catalogue descriptif de ses trésors. Telle était l'histoire de l'homme que j'étais, sans aucun espoir précis d'ailleurs, venu consulter sur le cas de Jim. C'eût été déjà un soulagement pour moi que de connaître son sentiment sur l'affaire. J'étais tout plein de mon sujet, mais je n'en respectais pas moins l'intérêt intense et presque passionné avec lequel il contemplait son papillon, comme s'il eût pu, dans la splendeur bronzée de ses ailes fragiles, dans les traînées blanches, dans les taches somptueuses, distinguer d'autres visions. « Merveilleux !» répéta-t-il, en levant les yeux sur moi. « Regardez ! Cette beauté, ce n'est rien encore, mais admirez cette précision, cette harmonie, quelle fragilité ! Et quelle force pourtant! Quelle exactitude! Voilà bien la nature, l'équilibre de forces colossales. Toutes les étoiles d'un côté, tous les brins d'herbe de l'autre. Et le formidable cosmos, dans son équilibre parfait, produit ceci. Cette merveille, ce chef-d'œuvre de la nature, l'immense artiste. Je n'ai jamais rencontré entomologiste aussi enthousiaste, fis-je remarquer gaiement. Le chef-d'œuvre, et que faites-vous de l'homme ? L'homme est prodigieux, mais ce n'est pas un chef-d'œuvre, répliqua-t-il, sans lever les yeux de la plaque de verre. Peut-être l'artiste était-il un peu fou, hein ? Qu'en dites-vous ? Il me semble parfois que l'homme est venu là où il n'a que faire, où il n'y a pas de place pour lui, car autrement, pourquoi voudrait-il prendre toute la place ? Pourquoi courrait-il à droite et à gauche, en menant si grand bruit autour de ses actes ? En parlant des étoiles, en écrasant les brins d'herbe. En attrapant des papillons, insinuai-je. Il sourit, se renversa contre son dossier et étendit les jambes. Asseyez-vous, fit-il. Ce merveilleux animal, c'est moi qui l'ai capturé, par un très beau matin. Et j'en ai ressenti une grosse émotion. Vous ne savez pas ce que c'est, pour un collectionneur, que de s'emparer d'une pièce pareille. Vous ne pouvez pas le savoir. Je souriais doucement dans mon fauteuil à bascule. Les yeux de Stein semblait voir bien plus loin que le mur sur lequel ils étaient fixés. Et il me raconta qu'un soir, un employé du pauvre Mohammed était venu le prier de se rendre à la résidence, comme il disait, demeure distante de quelque 9 ou 10 milles, à laquelle on accédait par un sentier, à travers une plaine cultivée, semée çà et là de bouquets de bois. Il avait de bonne heure quitté sa maison fortifiée, après avoir embrassé sa petite Emma et donné toute autorité à la princesse, sa femme. Elle l'avait accompagné jusqu'à la grande porte, une main sur le cou de son cheval. Elle portait une blouse blanche, des épingles d'or dans les cheveux, et sur l'épaule gauche, une courroie de cuir jaune soutenant un revolver. « Elle me parlait comme parlent les femmes, » disait Stein, « en me recommandant d'être prudent, de tâcher de rentrer avant la nuit, et en me taxant de méchanceté parce que je voulais partir seul. » Nous étions en guerre, et le pays n'était pas sûr. Les domestiques fixaient aux fenêtres les volets blindés et chargeaient leurs carabines. Elle me dit de n'avoir aucune crainte à son sujet. Elle saurait défendre la maison contre n'importe qui jusqu'à mon retour. Je riais de plaisir à l'entendre. C'était bon de la voir si brave, si jeune, si forte. Moi aussi j'étais jeune dans ce temps-là. À la porte, elle prit ma main, la serra et fit un pas en arrière. Je retins mon cheval jusqu'à ce que j'eusse entendu fixer les barreaux derrière moi. Il y avait un de mes grands ennemis, un noble, un beau brigand, qui battait la campagne avec une bande armée aux alentours de ma demeure. Je fis un petit temps de galop de 4 ou 5 milles. Il avait plu dans la nuit, mais la brume s'était levée, et le visage de la terre était parfaitement net. Il me souriait, tout frais, tout innocent, comme celui d'un petit enfant. Tout à coup, j'entends une salve de coups de feu, une vingtaine au moins, à ce qu'il me paraît. Des balles me sifflent aux oreilles, et mon chapeau saute de ma tête. C'était une petite embuscade, vous comprenez? Il s'était arrangé à me faire appeler par mon pauvre Mohammed, et m'avait tendu ce traquenard. Je compris tout en un clin d'œil, et me dis, il faut un peu d'habileté. Mon poney s'ébroue, bondit, se dresse sur ses pattes de derrière, et moi je me laisse tout doucement tomber en avant, la tête sur sa crinière. Il se met à marcher, et d'un œil je vois par-dessus son cou un petit nuage de fumée suspendu à ma gauche, au-dessus d'un massif de bambou. Je me dis, ah ah, mes amis, pourquoi n'attendez-vous pas assez avant de tirer? Vous ne m'avez pas encore gelungen. « Oh non !» Je saisis mon revolver de la main droite tout doucement. En définitive, il n'était que 7, ces gredins. Ils surgissent de l'herbe et se mettent à courir. Avec leurs sarongs retroussés, en agitant leurs lances au-dessus de leur tête, et en se criant l'un à l'autre de ne pas laisser échapper le cheval, puisque je suis mort. Je les laisse approcher à la distance de cette porte, et alors, bang, bang, je vise soigneusement à chacun de mes coups. Une dernière balle dans un dos d'homme, mais je le manque. Trop loin déjà. Et je reste en selle, au-dessus de la douce terre toute nette qui me sourit, et devant 3 cadavres abattus sur le sol. L'un était roulé en boule comme un chien. Un autre sur le dos avait un bras devant les yeux, comme pour se garantir du soleil. Le troisième retira sa jambe, très lentement, pour l'allonger brusquement, d'un seul coup. Je le regardais attentivement du haut de mon cheval, mais c'était bien fini. Er bleibt ganz ruhig. Il reste parfaitement tranquille. Et en cherchant sur son visage un signe de vie, je vois quelque chose comme une ombre légère passer sur son front. C'était l'ombre de ce papillon. Regardez cette forme d'aile. Cette espèce vole haut et d'un vol puissant. Je lève les yeux et le vois s'envoler. Je me dis, est-ce possible ? Et je le perds de vue. Je descends de selle et me mets à marcher très lentement, mon revolver dans une main et la bride de mon cheval dans l'autre. Je jette les yeux à droite et à gauche, en bas et en l'air, partout. Je finis par le revoir juché sur un petit tas de boue, à 10 pieds de moi. Mon cœur se met à battre. Je lâche mon cheval, garde mon revolver dans une main et retire de l'autre mon feutre mou de ma tête. Un pas. Tout doux. Un second pas, flop, je l'avais. Quand je me relevais, l'émotion me faisait trembler comme une feuille. Et lorsque je me rendis compte, en déployant ses ailes magnifiques, de la rareté et de l'extraordinaire perfection de ma capture, la tête me tourna et les jambes me manquèrent si bien que je dus m'asseoir par terre. J'avais eu le grand désir de trouver un spécimen de cette espèce lorsque j'étais au service du professeur. J'avais, à cet effet, entrepris de longues tournées et subi de grosses privations. J'en avais rêvé dans mon sommeil, et tout à coup, voilà que je le tenais dans mes doigts, pour moi. Selon les paroles du poète, il prononçait « boète »,« so halt ich's endlich denn in meinen Händen und nenn es in gewissen Sinne mein. » Ainsi donc, je le tiens dans les mains, et l'appelle dans un certain sens mien. Il prononça ces paroles avec emphase, d'une voix soudain baissée, et détourna lentement ses yeux de mon visage. Il se mit à bourrer avec une activité silencieuse une pipe à long tuyau, puis le pouce sur l'ouverture du fourneau, me regarda d'un air significatif. Oui, mon bon ami, ce jour-là, je n'avais plus rien à désirer. J'avais bien déconfié mon principal ennemi. J'étais jeune et fort, j'avais l'amitié, j'avais l'amour d'une femme, j'avais un enfant pour me remplir tout à fait le cœur, et l'objet des rêves d'un temps de ma vie, je le tenais aussi dans les mains. Il frotta une allumette qui jeta une lueur vive. Son visage placide et rêveur eut une crispation douloureuse. « Ami, femme, enfant, » fit-il lentement, en regardant la petite flamme. « Pfff !» L'allumette s'éteignit. Il se retourna avec un soupir vers la case de verre. Les ailes frêles et glorieuses tremblaient légèrement, comme si son souffle eût, pour un instant, rappelé à la vie ce somptueux objet de ses rêves. « L'ouvrage, » reprit-il brusquement avec son accent habituel de douceur enjouée, « l'ouvrage est en bonne voie. Je viens de décrire ce rare spécimen. »« Oui, mais quelle bonne nouvelle apportez-vous ?»« À dire vrai, Stein, répondis-je avec un effort qui me surprit moi-même, je suis venu pour vous décrire un spécimen, moi aussi. Un papillon, demanda-t-il avec une vivacité incrédule et joyeuse. Non, rien d'aussi parfait, répondis-je, en me sentant soudain accablé par un monde de doutes. Un homme. Arzo, murmura-t-il. Et le visage souriant qu'il tournait vers moi se fit grave tout à coup. Il me regarda un instant, puis déclara lentement. Eh bien, je suis un homme aussi. Le voilà bien tout entier. Il savait se montrer si généreusement encourageant qu'un homme scrupuleux hésitait au moment de la confidence. Mon hésitation fut pourtant de courte durée. Il m'écoutait, les jambes croisées. De temps en temps, son visage disparaissait complètement dans une explosion de fumée, et un grognement sympathique sortait du nuage. Lorsque j'eus achevé mon récit, il décroisa les jambes, posa sa pipe, se pencha gravement vers moi, les coudes sur les bras de son fauteuil, les doigts joints. « Je comprends très bien. C'est un romanesque. » Il avait trouvé du premier coup, et je restais d'abord stupéfait de la sûreté de son diagnostic. Notre conversation ressemblait fort, en effet, à une consultation médicale. Stein faisait si bien figure de savant, dans son fauteuil et à sa table, et moi, de mon siège, je levais sur lui un regard si empreint d'anxiété qu'il lui parut tout naturel de demander « Que faut-il faire ?» Il leva un long index. « Il n'y a qu'un remède. Une seule chose peut nous guérir de nous-mêmes. » L'index retomba sur le bureau avec un claquement sec. Le cas dont il m'avait montré la simplicité se faisait plus simple encore, si possible, et totalement désespéré. Il y eut un silence. « Oui, fis-je, mais à proprement parler, la question ici n'est pas de guérir, c'est de vivre. » Il m'approuva de la tête, un peu tristement peut-être. « Ya, ya. De façon générale, pour parler comme votre grand poète, that is the question. » Il continuait à hocher la tête avec sympathie. « Être. Ah, être. » Il se redressa le bout des doigts sur la table. Nous voulons être de tant de façons différentes, reprit-il. Ce magnifique papillon trouve un petit tas de boue et s'y pose tranquillement. Mais l'homme ne veut jamais rester tranquille sur son tas de boue. Il veut être là, et puis après là. Il levait, puis abaissait la main. Il veut être un saint, puis il veut être un démon. Et chaque fois qu'il ferme les yeux, il se voit très beau, plus beau qu'il ne peut jamais l'être, en rêve. Il abaissa le couvercle de verre. La serrure automatique se ferma avec un bruit sec, et prenant la caisse à deux mains, il la rapporta religieusement à sa place. Il sortit du cercle brillant tombé de l'abat-jour pour entrer dans la zone de lumière atténuée, puis dans l'ombre confuse. Ce rapide passage faisait un effet singulier. On eût dit qu'il échappait, en quelques pas, à ce monde concret et à ses inquiétudes. Comme si elle eût été dépouillée de substance, sa haute silhouette semblait planer, avec des mouvements vagues et arrondis, au-dessus d'objets invisibles. Sa voix, issue d'un lointain où il paraissait mystérieusement occupé de soins immatériels, cessait d'être incisive pour se faire profonde et grave, adoucie par la distance. Et c'est de ce que l'on ne peut toujours garder les yeux fermés que vient la vraie difficulté, que naît la peine du cœur, la douleur du monde. Je vous le dis, mon ami, il n'est pas bon de s'apercevoir que l'on ne peut réaliser son rêve, faute de force ou d'habileté. Et l'on reste pourtant un si beau gaillard tout le temps. Wie, was, Gott im Himmel. Comment est-ce possible? L'ombre penchée sur les tombes de papillons riait impétueusement. Oui, cette chose terrible est très drôle. En naissant, un homme tombe dans un rêve comme on tombe à la mer. S'il veut se débattre pour en sortir, comme le font les gens sans expérience, il se noie, l'histoire. Non, je vous le dis, ce qu'il faut, c'est s'abandonner à l'élément destructeur et s'arranger, à force d'efforts des mains et des pieds dans l'eau, pour que la mer profonde, profonde, vous soutienne. Voilà, si vous me le demandez, comment on peut arriver à être. Sa voix prenait une puissance extraordinaire, comme s'il eût été inspiré dans l'ombre par une sagesse chuchotante. Je vous le dis, pour cela aussi, il n'y a qu'un moyen. Avec un bruit pressé de pas sur le sol, il traversa le cercle de lueur confuse et apparut soudain dans l'éclat de la lumière. Sa main tendue était pointée sur ma poitrine comme un pistolet. Ses yeux, très enfoncés, semblaient vouloir me transpercer. Mais sa lèvre crispée ne prononça pas une parole, et l'austère exaltation de la certitude qu'il avait trouvée dans l'ombre disparut de son visage. Il laissa tomber la main tendue vers ma poitrine et fit un pas dans ma direction pour la poser doucement sur mon épaule. Il y avait des choses, me dit-il tristement, qu'il valait peut-être mieux ne jamais raconter. Mais il avait si longtemps vécu seul que souvent il oubliait. Il oubliait. La lumière avait dissipé la certitude dont avait paru l'inspirer l'ombre lointaine. Il s'assit, les deux coudes sur la table, et se frotta le front. Et pourtant, c'est vrai, plongé dans l'élément destructeur. Il parlait à voix basse, sans me regarder, une main de chaque côté du visage. Voilà le secret. Suivre son rêve, et suivre son rêve encore, et ainsi... Et vi, usque ad finem. Son murmure convaincu ouvrait devant mes yeux une vaste et incertaine perspective, comme celle d'un horizon crépusculaire sur une plaine à la tombée de la nuit. Ou à l'aube, peut-être. On ne savait pas au juste, mais c'était une lumière charmeuse et décevante qui jetait la poésie subtile de sa pénombre sur des fondrières et sur des tombes. Sa vie avait commencé dans l'enthousiasme, dans le sacrifice aux idées généreuses. Il avait voyagé très loin, sur des chemins divers et d'étranges sentiers. Sur tous, il avait marché sans faiblesse et partant sans honte et sans regret. En cela, il avait raison. C'était le secret, sans doute. Mais la grande plaine où les hommes errent parmi les tombes et les fondrières restait très désolée, sous la subtile poésie de sa lumière crépusculaire, pleine d'ombre au centre et ceinte de clarté, comme si elle eût été entourée d'un abîme de flammes. lorsque je rompis enfin le silence, ce fut pour exprimer l'opinion que l'on aurait su trouver homme plus romanesque que lui. Il hocha doucement la tête, puis fixa sur moi un regard patient et interrogateur. « C'était une honte, dit-il. Nous nous laissions aller à bavarder comme deux enfants, au lieu de nous efforcer de trouver ensemble quelque chose de pratique, un remède applicable au mal, au grand mal, répéta-t-il, avec un sourire malicieux et indulgent. Mais cela ne rendit pas notre conversation plus précise. Nous évitions de prononcer le nom de Jim, comme si nous eussions voulu écarter de notre discussion tout être de chair et de sang, et qu'il n'eût été qu'un esprit errant, qu'une ombre douloureuse et sans nom. « Voyons, » fit Stein en se levant, « ce soir vous coucherez ici, et demain matin nous déciderons quelque chose de pratique. » Il alluma un chandelier à deux branches et me montra le chemin. Escorté des lueurs jetées par les bougies, nous traversâmes des pièces sombres et vides. La lumière glissait sur les parquets cirés, passait çà et là sur la surface polie d'une table, s'accrochait au renflement d'un meuble ou s'allumait toute droite dans de lointains miroirs, tandis que dans les profondeurs du vide cristal se reflétaient silencieusement les formes de deux hommes et les flammes de deux bougies. Stein marchait lentement, un pas devant moi, avec une courtoisie déférente. Il y avait sur son visage une quiétude profonde et pour ainsi dire attentive. De longues boucles blondes semées de fils blancs tombaient sur sa nuque légèrement penchée. « C'est un romanesque !» répéta-t-il. « Et c'est très mauvais, très mauvais. Et très bon aussi, » ajouta-t-il. « En êtes-vous sûr ? » demandai-je. « Gewiss, » fit-il, restant debout, son chandelier à la main, sans me regarder. « C'est évident. » Pourquoi autrement une douleur intime l'amènerait-elle à se découvrir lui-même? Qu'est-ce donc qui le fait exister à vos yeux et aux miens? Il était difficile à ce moment de croire à l'existence extérieure de Jim, à cette existence commencée dans un presbytère, souillée par le contact des foules comme par des nuages de poussière, réduite au silence dans le monde matériel par les appels tumultueux de la vie et de la mort. Mais son impérissable réalité s'imposait pourtant à moi avec une force convaincante et terrible. Je la distinguais avec netteté, comme si notre course à travers les hauts appartements silencieux, comme si les lueurs tremblantes et les visions furtives de silhouettes humaines et de flammes vacillantes dans des profondeurs transparentes et insondables, nous eussent fait approcher de la vérité absolue, qui, à l'instar de la beauté, flotte à demi submergée, obscure et fugitive, sur les immobiles et muettes eaux du mystère. C'est possible, concédai-je, avec un rire léger, dont la répercussion inattendue et bruyante me fit aussitôt baisser le ton. Mais ce dont je suis sûr, au moins, c'est que vous l'êtes bien, vous aussi. La tête penchée sur la poitrine et le candélabre levé très haut, il se remit en marche. « Oh, évidemment, j'existe aussi, » murmura-t-il. Il me précédait. Mes yeux suivaient ses mouvements, mais ce que je voyais, ce n'était pas le chef de la maison de commerce, l'hôte joyeusement accueilli dans les réunions, le correspondant de sociétés savantes et de naturalistes lointains. Je voyais seulement la réalité d'une destinée qu'il avait su guider d'un pas ferme. Je voyais cette vie commencer dans un humble milieu, cette existence riche de généreux enthousiasme, d'amitié, d'amour, de guerre, de tous les éléments exaltés du roman. Devant la porte de ma chambre, il se retourna vers moi. « Oui, » fis-je, comme si j'eusse poursuivi une discussion, « et entre autres choses, vous aviez follement rêvé d'un certain papillon. Mais lorsqu'un beau matin votre rêve est venu à votre rencontre, vous n'avez pas laissé échapper l'occasion merveilleuse, n'est-ce pas ? Tandis que lui... » Stein leva la main. « Savez-vous donc combien d'occasions j'ai laissé s'enfuir, combien j'ai laissé s'évanouir de rêves qui avaient croisé mon chemin ?» Il hocha la tête avec regret. « Je crois bien que certains de ces rêves auraient été très beaux si j'avais su les réaliser. Mais savez-vous combien ? je ne le sais peut-être pas moi-même. Que les siens aient été beaux ou non, répliquai-je, il y en a au moins un qu'il n'a pas su conquérir. Nous en avons tous laissé échapper un ou deux comme cela, fit Stein, et c'est la peine, la grosse peine. Il me serra la main sur le seuil et jeta un coup d'œil dans la chambre par-dessous son bras levé. « Dormez bien, fit-il, et demain il faudra que nous cherchions quelque chose de pratique, de pratique. » Bien que sa chambre fût située au-dessous de la mienne, je le vis reprendre le chemin que nous avions suivi. Il retournait à ses papillons. Chapitre 21. Je ne pense pas qu'aucun de vous ait jamais entendu parler du patousan, reprit Marlowe, après un silence rempli par l'allumage méthodique d'un cigare. Peu importe. Dans la foule des corps célestes qui se pressent la nuit autour de nous, il y en a plus d'un dont les hommes n'ont jamais entendu parler, parce qu'ils gravitent en dehors de la sphère de leurs habitudes, et n'a d'importance terrestre que pour les astronomes qui sont payés pour parler doctement de sa composition, de son poids, de son orbite, des irrégularités de sa trajectoire, des aberrations de sa lumière, comme d'une sorte de scandaleuse monstruosité scientifique. Il en est ainsi du patousan. Les cercles gouvernementaux de Batavia y faisaient de doctes allusions, à propos surtout de ses aberrations et de ses irrégularités, et dans le monde du commerce, quelques très rares négociants le connaissaient de nom. Mais personne n'y était allé, et je soupçonne que personne ne se souciait d'y aller, comme je suppose qu'un astronome objecterait fort à être transporté dans un lointain corps céleste, où, séparé de ses émoluments terrestres, il serait abasourdi par le spectacle de ciels inconnus. Mais les corps célestes ni les astronomes n'ont rien à voir avec le patousan. C'est Jim qui s'y rendit. Je voulais seulement vous faire comprendre que si Stein eût réussi à l'envoyer dans une étoile de cinquième grandeur, le changement n'eût pas été plus complet pour lui. Laissant en arrière les faiblesses terrestres et la réputation qu'il s'était acquise, il trouva, pour exercer ses facultés imaginatives, des conditions toutes nouvelles et toutes remarquables. Et c'est de remarquables façons aussi qu'il sut en profiter. Stein était l'homme qui en savait plus que quiconque sur le patousan. Je ne doute pas qu'il n'y fût allé, soit dans ses jours de chasse au papillon, soit plus tard, lorsque son incorrigible manie le poussait à relever, par une pincée de roman, les sauces épaisses de sa cuisine commerciale. Il y a bien peu de coins de l'archipel qu'il n'eût visité, dans leur pénombre originelle, avant que la lumière, et même la lumière électrique, ne les eût inondés, au nom d'une plus saine morale et, eh bien, au nom de plus gros bénéfices aussi. C'est au petit déjeuner, le lendemain de notre entretien sur Jim, qu'il me parla du patousan. Je venais de répéter le mot du pauvre Brierly. Qu'il creuse donc un trou de 20 pieds pour s'y terrer. Il me regarda avec un intérêt attentif, comme si j'eusse été un insecte rare. Ce serait à la rigueur possible, fit-il, en dégustant son café. Oui, l'enterrer, commentai-je. On ne s'arrête guère à pareille idée, mais on ne saurait mieux faire, étant donné la nature de ce garçon-là. Oui, il est jeune, murmura Stein. C'est le plus jeune des êtres humains, affirmai-je. Jeune, il y a le patousan, reprit-il, sur le même ton de rêve. Et la femme est morte maintenant, ajouta-t-il mystérieusement. Naturellement, je ne sais rien de cette histoire. Je puis seulement inférer qu'une fois déjà, le patousan avait servi d'asile à un être accablé par une faute, une transgression ou un malheur. On ne saurait soupçonner Stein. La seule femme qui eût existé pour lui, c'était la jeune Malaise, qu'il appelait « ma femme la princesse », ou plus rarement, et dans ses moments d'expansion, la mère de mon Emma. Je ne saurais dire quelle était la femme à laquelle il songeait, à propos du patousan. Mais ces allusions me firent conclure que c'était une Hollando-Malaise, jolie et bien élevée, dont l'existence avait été tragique ou simplement pitoyable. La partie la plus douloureuse de son histoire était sans doute son mariage avec un Portugais de Malacca, jadis employé dans une maison de commerce des colonies hollandaises. Je sus par Stein que cet individu était peu recommandable, à plus d'un titre, mais toujours de façon mal définie et dangereuse. C'est uniquement par considération pour sa femme que Stein l'avait nommé directeur du comptoir de la maison Stein et compagnie à Patouzan. Au point de vue commercial, cette désignation n'avait pas été heureuse, pour la société tout au moins. Et maintenant que la femme était morte, Stein était disposé à essayer d'un nouvel agent. Le Portugais, qui s'appelait Cornelius, se tenait pour un homme méconnu et considérait que ses mérites l'eussent désigné pour de plus hautes fonctions. C'est cet individu que Jim allait devoir remplacer. « Je ne crois pas qu'il veuille céder la place, » remarqua Stein. « Ce n'est pas mon affaire, d'ailleurs. C'est seulement par considération pour cette femme que j'ai... Mais je crois qu'il y a une jeune fille, et s'il veut rester, je lui laisserai la disposition de la vieille maison. » Le Patouzan fait partie d'un état indigène indépendant. C'est un district écarté dont le principal établissement porte le même nom. À quelques 40 000 de la mer, en un point d'où l'on découvre les premières maisons, on voit s'élever, au-dessus de la masse des forêts, les sommets très voisins de deux montagnes abruptes, séparées par ce que l'on prendrait pour une fissure profonde, fente produite par un coup formidable. En fait, la vallée intermédiaire ne forme qu'une faille étroite, et de la ville, la montagne se présente sous forme d'une masse irrégulièrement conique et fendue en deux moitiés légèrement écartées. Au troisième jour qui suit la pleine lune, l'astre nocturne, vu de l'espace ouvert devant la maison de Jim, il avait une très belle maison de style indigène lorsque j'allais le voir, se levait en plein derrière ces montagnes. Sa lueur diffuse accusait d'abord les deux masses en un relief d'un noir intense, puis tout à coup émergé et montant doucement entre les deux parois de la crevasse, le disque rougeoyant et presque parfait finissait par flotter au-dessus des sommets, comme s'il eût, avec un air de triomphe modeste, échappé à une tombe géante. « Merveilleux effet !» déclara Jim à côté de moi. « Cela vaut la peine d'être vu, n'est-ce pas ?» Il laissait percer sous ses mots un accent d'orgueil personnel qui me fit sourire. On aurait dit qu'il avait pris une part à l'ordonnance de ce spectacle unique. Il avait réglé tant de choses au Patouzan, tant de choses qui eussent paru aussi impossibles à contrôler pour lui que la marche du soleil et des étoiles. C'était inconcevable, et c'était pourtant le caractère particulier du rôle auquel Stein et moi l'avions inconsciemment convié, sans autre dessein que de l'éloigner de la vie des hommes et de l'arracher plus encore à la sienne, comprenez-le. Tel était notre premier mobile, bien que j'aie peut-être eu, je dois l'avouer, un autre motif pour me pousser. Je devais rentrer pour quelque temps en Angleterre, et il est possible que j'eusse, à demi inconsciemment peut-être, souhaité disposer de lui. Disposer de lui, vous m'entendez, avant mon départ. Je retournais au pays, et c'est le pays qui me l'avait envoyé, avec sa triste peine et ses droits obscurs, comme un homme qui halète sous un fardeau, dans le brouillard. Je ne puis affirmer l'avoir jamais clairement vu. Même aujourd'hui, après cette dernière visite que je lui ai faite, mais il me semblait que moins je le comprenais, plus j'avais d'obligation envers lui, au nom même de ce doute qui est une part inséparable de notre connaissance. En savais-je tellement plus sur moi-même? Je retournais donc au pays, je vous le répète, à ce pays assez lointain pour que tous les foyers y deviennent comme un seul foyer, auquel le plus humble d'entre nous a le droit de s'asseoir. Illustre ou obscur, nous errons par milliers à la surface du globe pour amasser au-delà des mers argent ou gloire, ou gagner seulement une croûte de pain. Mais il me semble que pour chacun de nous, le retour au pays constitue une sorte de reddition de compte. Nous rentrons pour affronter nos supérieurs, nos parents, nos amis, ceux à qui nous obéissons et ceux que nous aimons. Mais les êtres mêmes qui n'ont personne, les plus dépouillés, les plus solitaires, les plus libérés de juges et de liens, ceux pour qui le foyer ne comporte ni cher visage ni voix familière, doivent affronter l'âme du pays, l'âme qui flotte dans son air et dans son ciel, sur ses vallées et sur ses collines, sur ses champs, ses eaux et ses bois, comme un muet ami, un juge et un inspirateur. Dites ce que vous voudrez, mais pour retrouver la joie du pays, pour affronter sa vérité et respirer sa paix, il faut rentrer avec la conscience libre. Tout cela peut vous paraître pure sentimentalité, et peu d'entre nous, en effet, ont le désir ou la faculté de regarder consciencieusement sous la surface des émotions familières. Il y a les jeunes filles que nous aimons, les hommes vers qui nous levons les yeux, les tendresses, les amitiés, les occasions, les plaisirs. Mais le fait reste entier. Il faut avoir les mains propres pour toucher à sa récompense, si l'on ne veut pas la voir changer en feuille morte entre les doigts. Je crois que ce sont les isolés, les êtres sans foyer et sans affection, ceux qui ne retournent pas à une maison, mais au pays lui-même, pour retrouver son âme désincarnée, éternelle et immuable, je crois que ce sont ceux-là qui éprouvent le mieux sa sévérité et sa puissance rédemptrice, la grâce de son droit séculaire à notre fidélité et à notre soumission. Oui, si nous ne sommes pas nombreux à comprendre cela, nous le sentons tous, et je dis tous sans exception, car ceux qui ne le sentent pas ne comptent pas non plus. Tout brin d'herbe a son petit coin de terre d'où il tire vie et force. Et l'homme aussi est enraciné dans une terre spéciale d'où il tire sa foi en même temps que sa vie. Je ne sais jusqu'à quel point Jim comprenait, mais je sais qu'il sentait. Il sentait confusément, mais d'intense façon, la nécessité d'une telle vérité ou d'une telle illusion. Peu m'importe le nom que vous lui donnerez. Cela fait une bien petite différence, et cette différence-là signifie si peu. Le certain, c'est qu'en raison de tels sentiments, il attachait, lui, de l'importance à un retour. Il ne retournerait jamais au pays, jamais. S'il avait été capable de manifestations pittoresques, il eût frémi à cette seule pensée, et vous eût fait frémir aussi. Mais il n'était pas homme à s'abandonner à de telles faiblesses, bien qu'à sa façon ce fût un expressif. À l'idée d'un tel retour, il serait devenu désespérément raide et impassible, le menton baissé et la fièvre boudeuse. Cependant que ses yeux bleus candides auraient lancé un éclair sous les sourcils froncés, comme devant une pensée intolérable et révoltante. Il y avait de l'imagination sous ce crâne dur que l'épaisse chevelure crépue coiffait comme d'un casque. Pour moi, qui n'ai pas d'imagination, je serais plus rassuré aujourd'hui sur son sort si j'en avais, je ne veux pas vous faire croire que je me représentasse l'âme du pays surgissant au-dessus des blanches falaises de Douvres pour me demander ce que j'avais fait, moi qui revenais sans eau cassée, de mon très jeune frère. Je savais trop bien qu'il était de ces êtres sur le sort desquels il n'y a point d'enquête. J'avais vu des hommes qui valaient mieux que lui disparaître et s'évanouir à jamais, sans provoquer une manifestation de curiosité ou de regret. Ainsi qu'il sied au génie de vaste envergure, l'âme du pays n'a cure de vies innombrables. Malheur aux traînards. Nous n'existons qu'à notre place dans le rang. Il était resté en arrière et n'avait pas su rester à la hauteur de ses camarades. Mais il le sentait avec une intensité qui le rendait touchant, au même titre que la vie plus intense d'un homme rend sa mort plus émouvante que celle d'un arbre. Je m'étais trouvé à point sur sa route, et j'avais été touché, voilà toute l'histoire. Je me tourmentais de savoir de quel côté il allait se tourner. J'aurais vraiment souffert si, par exemple, il se fût mis à boire. La terre est si petite que j'avais peur d'être accosté un jour par un vagabond aux yeux troubles, au visage bouffi et souillé, aux savates de toile éculées, avec des loques flottantes aux coudes, et qui, au nom d'anciennes relations, m'emprunterait $5. Vous connaissez l'horrible et louche allure de ces épouvantails, sortis d'un passé présentable, qui vous fonde dessus, la voix éraillée et veule, le regard impudent et à demi détourné. Vous connaissez ces rencontres, plus douloureuses pour l'homme qui croit à la solidarité des existences humaines, que ne peut l'être à un prêtre la vue de l'agonie d'un vieil impénitent. Voilà, à dire vrai, la seule espèce de danger que j'envisageasse pour lui et pour moi, mais je me méfiais de mon défaut d'imagination. Peut-être pouvait-il arriver pis encore, dans un sens que mon esprit était impuissant à se représenter. Je ne pouvais oublier que ce garçon-là était un bel imaginatif, et les imaginatifs sont capables de s'écarter fort loin dans une direction, comme si on leur avait donné une longueur de câble plus grande qu'à leurs voisins, dans le difficile mouillage de la vie. Il n'y manque pas non plus, et ça donne à la boisson parfois. Peut-être lui faisais-je tort en ressentant pareille crainte à son sujet. Mais comment le savoir? Tout ce que Stein lui-même trouvait à m'en dire, c'est que c'était un romanesque. Et moi, tout ce que je savais, c'est qu'il était l'un de nous. De quoi se mêlait-il en étant romanesque? Si je vous parle autant de mes sentiments instinctifs et de mes réflexions brumeuses, c'est qu'il ne me reste plus grand-chose à dire de lui. Il existait pour moi, et, somme toute, c'est par moi seulement qu'il existe pour vous. Je l'ai conduit par la main, et je l'ai fait parader devant vous. Mes appréhensions si vulgaires étaient-elles injustes? Je ne saurais le dire aujourd'hui encore. Peut-être pourriez-vous le dire, vous, avec plus de sagesse, puisque, selon le proverbe, ce sont les spectateurs qui voient le mieux le jeu. En tout cas, elles étaient superflues. Il ne s'est pas écarté du chemin, pas du tout. Au contraire, il y a marché merveilleusement, droit comme une flèche, et il a prouvé par son excellente allure qu'il savait aussi bien soutenir un effort que partir d'un bond. Je devrais être ravi, car c'est une victoire à laquelle j'ai contribué, et je ne suis pourtant pas aussi heureux que je m'y serais attendu. Je me demande si cet effort l'a vraiment fait sortir de la brume où il errait, comme une silhouette assez mince, mais attachante, avec ses contours flous, traînard qui gémissait inconsolablement sur la perte de son humble place dans le rang. D'ailleurs, le dernier mot de l'histoire n'est pas dit, et ne sera jamais dit sans doute. Nos vies ne sont-elles pas trop courtes pour nous donner le temps d'aller jusqu'au bout d'une phrase qui reste éternellement, à travers nos balbutiements, à l'état d'intention? J'ai renoncé à entendre ces dernières paroles, dont le bruit, si elles pouvaient seulement être prononcées, ébranlerait le ciel et la terre. Nous ne trouvons jamais le temps de prononcer notre dernière parole, de dire le dernier mot de notre amour, de notre désir, de notre foi, de notre remords, de notre soumission, de notre révolte. Le ciel et la terre ne veulent pas être ébranlés sans doute, au moins par nous qui connaissons sur eux trop de vérité. Mes dernières paroles sur le compte de Jim seront brèves. J'affirme qu'il a atteint une vraie grandeur. Mais une telle histoire est rapetissée par celui qui la raconte, ou plutôt par ceux qui l'écoutent. Franchement, c'est moins de mes paroles que je me méfie que de vos esprits. Je saurais être éloquent si je ne craignais que vous ayez laissé étioler vos imaginations pour vous remplir le ventre. Je ne veux pas vous offenser. Il est bien respectable, apaisant, profitable et ennuyeux de ne point nourrir d'illusions. Pourtant, vous aussi, à votre heure, vous avez dû connaître cette intensité de vie, cette lumière splendide qui naissent parfois du choc de choses futiles et qui paraissent aussi stupéfiantes que la gerbe d'étincelles jaillie d'une pierre froide, aussi stupéfiante et aussi éphémère, hélas.